Les masterclass de France Culture. Aujourd'hui, Grégoire Bouillet avec Marie Sorbier.
Nous ouvrons cette masterclass France Culture avec vous, Grégoire Bouillet, à la Bibliothèque nationale de France. En lisant, en écrivant, c'est une collection de masterclass littéraires en partenariat avec le Centre National du Livre. L'idée de cette rencontre, c'est de connaître mieux votre processus de création, les coulisses de l'écriture, ce qui se joue dans votre tête. Quel rapport vous entretenez avec les livres publiés et avec ceux en gestation? Alors nous allons pendant une heure ausculter la mécanique qui vous permet de construire une œuvre singulière qui surprend et implique vos lecteurs à chaque nouvel opus. Mais dire d'abord, en guise d'introduction sélective, que tout a commencé pour vous par la peinture, que la musique est une source d'excitation toujours vivace et que le langage, lui, a pris sa place plus tard. Vous êtes un écrivain qui n'a pas commencé par écrire, mais par regarder et écouter les fluctuations du monde. Quelques jalons chronologiques. En 2002, Paris rapport sur moi, que les éditions Alia éditent à nouveau ces jours-ci. Un livre court, tranchant, qui dévoile autant de morceaux de vie que votre projet d'écriture, puis L'invité mystère et Cap Canaveral, toujours chez Alia, en 2004 et 2008. Alors après, il y a une bascule qui s'opère, peut-être que le mot bascule n'est pas le bon, on va en parler avec vous. Et vous publiez deux romans Monde, Le dossier M en 2017, puis Le cœur ne cède pas en 2022, et enfin Le syndrome de l'orangerie en 2024. Alors avant d'entrer dans la chair de tous ces livres, Grégoire Bouillet, on a coutume de commencer ces masterclass en s'interrogeant sur la vocation artistique. Et si ce mot vient du champ lexical religieux, il porte en lui étymologiquement cette belle notion d'appel. Avez-vous, Grégoire Bouillet, été appelé vers la littérature? Diriez-vous qu'écrire est une vocation?
Non. Non. Alors plus sérieusement, m'exprimer, arriver à dire certaines choses, ça c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit. Pardon de parler de ça, mais en fait, dans ma famille, ma mère prenait tout le langage. Et donc, elle laissait aucune place, ni à mon père, ni à mon frère, ni à moi. Et donc, pendant très longtemps, la seule façon que j'avais de m'exprimer, c'était de faire des dessins. Voilà, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence à dessiner. C'était la seule façon que j'avais d'exister en termes d'expression. Parce que le langage, c'était ma mère qui l'avait complètement tordu. Et d'ailleurs, l'incipit de mon tout premier livre parle précisément de ça. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte bien après, enfin même très récemment. C'est-à-dire, je raconte qu'un jour, ma mère entre, donc c'est un dimanche, rentre dans ma chambre où moi j'ai 8 ans, mon frère a 10 ans, où mon frère et moi on joue. Et elle est très exaltée, comme elle pouvait l'être. Et elle se précipite vers nous, elle me dit « Les enfants, est-ce que je vous aime ?» Ok, alors mon frère dit « Mais oui, maman, pas de problème. » Et moi, du haut de mes 8 ans, j'ai dit « Tiens, c'est peut-être l'occasion de dire quelque chose. Enfin, » Et donc, avec beaucoup de précautions, je lui dis « Peut-être que tu nous aimes un peu trop. » Et là, je vois ses yeux qui s'exorbitent et elle se dirige vers la fenêtre, elle l'ouvre avec violence et elle peut se jeter du cinquième étage. Mon père la rattrape, voilà, ça crée un charivari assez violent. La tête de ma mère cogne contre le mur, ça laisse une petite trace de sang, voilà, et pendant très longtemps, bon, et voilà, le dimanche se termine comme d'autres dimanches. Et donc déjà, il y a un rapport au langage, c'est-à-dire que ma mère me demande de dire quelque chose, je lui réponds honnêtement en faisant des précautions et ça produit une catastrophe. Et ce qui est drôle, c'est que je raconte ça, c'est vraiment la toute première page du premier livre
de
rapport sur moi. Et je dis que un jour, donc pendant des années, cette petite trace de sang est restée sur le mur et un jour, je dessine autour des cercles et je m'en sers de cible pour jouer aux fléchettes. Et quand je mets dans le mille, c'est la fin du paragraphe, j'imagine retrouver pendant un bref instant la faculté de parler sans crainte. Voilà. Et je pense qu'en fait, tout mon projet littéraire, en tous les cas, c'est ça. C'est arriver à retrouver un usage de la parole où je pourrais parler sans crainte et de dire la vérité, notamment la vérité.
Est-ce que cette première page de ce premier livre, elle a été écrite en premier?
Oui. Voilà. Alors, sachant que j'ai beaucoup écrit... Mais donc que quand j'ai quitté ma famille et que j'ai pris une chambre d'étudiant et tout ça, donc j'ai pas fait d'études, je suis autodidacte, hein, j'ai mis 10 minutes, enfin une heure les pieds à Jussieu, Et
vous étiez inscrit en quoi, à Jussieu ?
Je me souviens même plus.
Ah oui, vraiment, c'était...
Et je me suis dit, je ne peux pas rester dans un environnement d'étudiants. C'était, pour moi, c'était reculer le moment où la vraie vie... Enfin, voilà, j'aspirais assez bêtement. Hein, c'est-à-dire que je confondais la vraie vie avec le monde du travail. J'ai été bien puni. Voilà. Mais en tous les cas, être dans cette fausse existence où les étudiants quand même s'imaginent énormément de choses et parler de la vie et de l'amour et tout ça, alors qu'ils y connaissent rien, qu'ils se sont affrontés à rien... Vraiment, ça m'a un peu dégoûté, en fait, voilà. Et donc, au bout d'une heure, je suis parti et j'ai commencé immédiatement à 18 ans, je travaillais. Enfin, voilà, j'ai trouvé un emploi d'intérimaire à Europe numéro 1. Enfin, voilà, et tout ce temps-là, j'avais quand même, je peignais. Voilà, j'avais transformé mon appartement qui était un petit deux pièces dans le 14e. Bah,
quelle sorte de peintre étiez-vous? Vous peignez quoi?
Je n'étais pas peintre, c'est-à-dire que même écrivain, j'ai mis très longtemps à dire que j'étais écrivain et je suis même pas sûr. Je peignais. Il y a une vraie différence entre dire que je peins et savoir que l'on est peintre. Et c'est-à-dire que c'est avec le dossier M où je me suis dit je suis écrivain, parce que là il y avait quelque chose, une espèce de compréhension, une espèce de joie aussi, de liberté, qui fait que je n'essayais pas d'écrire. J'écrivais, j'étais dans l'écriture.
Et mais dans la peinture, vous n'êtes pas allé assez loin pour dire.
Alors
que vous
si,
êtes
à la fin, suite à une rupture amoureuse un peu violente, qui m'a laissé un peu sur le carreau. Là, je suis rentré dans la peinture, c'est-à-dire que tout, voilà, et ça donnait des choses très entre Pollock et de Kooning, on va dire. C'était très gestuel et tout ça, et j'ai voilà, je me souviens, j'habitais un gourbi, rue de Lancrie, j'avais pas de chauffage, mais j'avais jamais froid, c'est-à-dire que j'étais en un tel état d'exaltation, et c'est très récurrent en fait, c'est-à-dire que moi la création passe par un peu d'hystérie, parce que j'ai l'impression de vivre des trucs. Alors si je dois aller au fond des choses sur le rapport à bon, alors au bout d'un moment je me suis rendu compte quand même que j'étais un mauvais peintre. Que Pollock et de Kooning existaient bien avant moi et que je faisais du sous Pollock et du sous de Kooning. Et puis par ailleurs, il me manquait aussi les mots. Au bout d'un moment, je pense que je me suis pas formulé évidemment comme ça, mais je pense avoir compris que il n'était pas possible que je continue de vivre sous la dépendance langagière de ma mère et qu'il fallait que je conquière mon propre langage, ma propre faculté de parler.
Mais cette période de peintre, ou en tout cas vous en train de peindre, elle a duré combien de temps ?
10 ans. Et après, je suis devenu fou.
Et est-ce que la peinture vous a appris...
Alors, je dis que je suis devenu fou et ça vous...
Mais
non,
je vais...
il se passe rien, là.
Vous êtes devenu fou et on va y revenir, mais je voudrais quand même encore un petit peu vous parler de peinture. Je peux ?
Oui, bien sûr. Bon.
Alors, est-ce que, justement, ces années de peintre, elles vous ont appris à regarder le monde avec une attention particulière ? Certains peintres qu'on interviewe racontent qu'ils voient d'abord les couleurs, d'autres voient la perspective ou d'autres encore la lumière. Comment vos yeux, à vous, Grégoire Bouillet, ont-ils gardé la trace de ces années de pratique, de ces 10 ans de peintre ?
Ça va sembler paradoxal, mais ça passait pas vraiment par la vision. C'est-à-dire que je me mettais pas devant, j'étais pas Monet, je me mettais pas devant des nymphéas, un étang, et puis je peignais, et voilà, en essayant d'y mettre autre chose que les nymphéas, bien évidemment. C'était très mental et très gestuel, en fait. Pollock, de Kooning. Donc, moi, ce que je retiens de mes années de peinture, et c'est pour ça que je me suis mis à l'écriture, c'est que peindre, être vraiment dans le geste de peindre, c'est une abolition de la pensée. C'est-à-dire que vous ne pensez pas quand vous peignez, vous pouvez penser avant à ce que vous avez peint, vous pouvez penser après et juger, porter un regard. Mais dans le temps de la peinture, vous êtes dans un état de non-pensée qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la pensée qui se met dans la peinture. Mais en tous les cas, et donc c'est manuel, quoi.
Donc le geste n'est pas relié au cerveau à ce moment-là, quand vous peignez ?
En tous les cas, pas de façon consciente. Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est ça que j'ai adoré. Et en même temps, c'est ça qui a été le manque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mais moi je voulais penser un certain nombre de choses, j'étais un être de langage, j'adorais discuter, me foutre sur la gueule en parole avec les amis, les copains, etc. J'étais jamais d'accord avec personne, et ça passait par le langage. Donc je pense que c'était très compensatoire, la peinture. Et c'est pour ça qu'il a fallu que j'arrête la peinture pour me mettre à parler, enfin voilà, à arriver à parler, quoi.
Mais c'était un temps de gestation, ce temps de peintre, pour justement que le langage puisse advenir finalement.
On peut dire ça rétrospectivement, mais sur l'instant, c'est pas du tout vécu comme ça. Moi, je quitte mes parents, je rencontre une petite amie dans une manif, on vit ensemble, je fais de la peinture, je bosse, j'ai des amis, je bois, enfin voilà, on fait la fête. Les choses ne se pensent pas. En tous les cas, moi, j'étais absolument incapable. Et je pense que je fais aussi partie d'une génération qui a eu beaucoup de chance, d'une certaine façon. C'est-à-dire que je suis après l'arrivée de la pilule et avant l'arrivée du sida. Ce qui crée pour un jeune homme des conditions quand même relationnelles assez exaltantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le poids de la mort. Il y a une espèce de parenthèse enchantée quand même dans les relations sexuelles entre les jeunes gens et les jeunes filles, même si moi j'étais pas forcément le plus gaillard dans ce domaine-là, mais c'était aussi, alors juste au moment de, donc j'ai 14 ans en 74, donc au moment de la crise du pétrole, mais quand même toute mon enfance, toute ma culture, c'était on n'a pas peur de l'avenir, l'avenir nous appartient. Et c'est un sentiment extrêmement profond dans la façon d'aborder la vie. Moi, je vois ma fille, mais elle fait des projets de vie. Et moi, ça m'hallucine.
Le mot projet,
oui, mais on peut pas. La vie n'est pas un projet. On peut pas enfermer la vie dans des projets. On parle comme ça et on pense comme ça. Et vraiment, les jeunes gens qui sont nés donc dans les années 60 ne pensaient pas comme ça. On pouvait tout à fait faire un truc et puis sans savoir que demain, on ferait autre chose. Donc moi, j'ai vécu avec cette liberté-là, cette absence de surmoi social qui faisait que le monde pouvait éventuellement nous appartenir dans le mouvement, en tous les cas, dans la liberté de ce que l'on pouvait, même si c'était pas forcément facile. Et voilà.
Et alors, quel est le déclencheur qui vous fait passer du pinceau au stylo? Justement, vous dites, je suis devenu fou. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment les mots arrivent?
Alors, j'ai beaucoup aimé une jeune femme dont je parle d'ailleurs dans mes bouquins. C'est pas le seul amour que j'ai eu, mais celle-là était importante. Et bon, on se quitte. Elle part aux États-Unis en imaginant que la vraie vie est là-bas. Ok, je disais, quelle vraie vie? De quoi parles-tu? Enfin, bon, bref. Et en fait, elle, au bout de 6 mois, donc mon frère habitait aux États-Unis, donc je l'avais envoyé voir mon frère, et qui était homosexuel et qui est mort du sida. Et bref, je passe les détails. Je vais la sauver, je vends tout parce qu'elle était au 36e dessous. On achète une bagnole, on traverse les États-Unis en bagnole, et tout ça, on rentre à Paris, je la ramène à Paris. Et puis, donc on n'avait pas de boulot, on n'avait pas d'argent, rien. Et voilà, on est dans un café et elle remarque un journaliste qui était un peu connu. Elle était journaliste, elle a été pigiste. Je lui dis, tiens, mais on va pas lui demander, il a peut-être du boulot. Elle va le voir, ils discutent et ils sont partis ensemble, ils ont fait deux gosses. Et là, j'ai pété un câble. C'est-à-dire que là, j'ai eu ce qu'on appelle une crise de schizophrénie. Ça m'a duré 6 mois, j'entendais des voix qui me disaient « tourne à gauche, tourne à droite », et voilà, je pouvais me retrouver. Ça, voilà. Et je vivais dans la rue, enfin voilà, c'est un moment un peu particulier que je raconte assez peu et que je n'ai jamais raconté dans mes livres parce que je ne sais pas quoi en dire.
Mais quand vous en parlez, ça a l'air assez léger, cette période de schizophrénie.
Alors, si je n'arrive pas à en parler, c'est parce que, bien évidemment, le contexte peut faire croire que c'est extrêmement affreux et tout ça. Mais moi, j'étais dans un tel état d'exaltation schizophrénique que ça a été un bonheur absolu. C'est-à-dire que j'étais en transe pendant 6 mois. J'ai vécu une espèce de transe, de chaleur intérieure. Je vivais chaque jour des épopées dans la ville qui m'emmenaient. Alors chaque fois, je me réveillais devant une plaque mortuaire. C'était assez drôle. Ici est mort André Gide. À chaque fois, et là, je me réveillais. Ok, je vais dire où suis-je? Voilà, c'était des trucs comme ça. Et je passais mon temps à tout écrire dans des carnets. C'est-à-dire que j'écrivais de façon.
Ce que les voix vous disaient?
Oui, ou même tout, là, il y a une aiguille, là, il y a un champ, tout ce qu'il me pensait, et puis une espèce de rage aussi, voilà, je disais plein d'obscénités, des horreurs, enfin, c'est un côté Artaud, le talent en moins. Et je pense que ça a été absolument fondateur dans mon rapport à l'écriture. Mon premier livre, il est extrêmement tenu. Il est très serré, très tendu, il est comme un rasoir. Précisément pour ne pas être dans l'énormité langagière qui a été la mienne pendant 6 mois lorsque j'étais, puis qui a perduré pendant un moment lorsque j'étais schizophrène, enfin en crise de schizophrénie. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance de m'en être tiré parce que les voix m'auraient dit mais tue cette vieille dame ou jette-toi du haut du pont.
Je l'aurais fait.
Enfin, il y a aucune résistance possible. Voilà. Donc moi, c'était des voix super sympas. Au pire, elle me disait mais là, t'es un cheval, hennis et va galoper.
Oui.
Ok. Personne ne m'a arrêté. On m'a pas emmené dans un asile de force. On m'a pas mis des neuroleptiques et tout ça. J'ai eu beaucoup de chance. Enfin voilà. Tout ça est assez fondateur. Je raconte pas ça pour me déverser, etc. Pour dire que c'est intimement lié à l'écriture.
Mais à quel moment vous vous dites que ces carnets peuvent être publiés? peuvent faire livre.
Jamais.
Et comment Rapport sur moi naît?
Eh ben, il naît justement. Alors là, il y a toujours une histoire. En fait, à ce moment-là, j'avais écrit un article sur un livre de Michel Bounan, qui est décédé, hélas, qui s'appelait L'art de Céline et son temps. Et bon, je joue aux échecs avec un journaliste du Monde et qui n'avait pas osé chroniquer, qui est mort lui aussi, qui n'avait pas osé chroniquer au Monde un livre qui attaquait un peu Céline. Voilà. Sous l'angle social et révolutionnaire en plus. Et moi j'avais lu et donc il me propose de le faire. Bon ben j'écris le et en fait l'article pareil, il était beaucoup plus grand que ce qui était prévu. Du coup le livre fait un succès. L'éditeur me dit mais c'est dingue, on a tout vendu en une semaine à cause de l'article. Ah bon, c'est encore prescripteur les articles de presse sur les livres, incroyable. Et je rencontre donc l'éditeur de Michel Bounan, qui est l'éditeur d'Alia, qui s'appelle Gérard Béribi, et on devient assez copains. Enfin voilà. Et moi, bien évidemment, je peignais, mais j'écrivais à ce moment-là beaucoup, mais dans mon coin. Enfin, je me battais avec ça, mais sans aucune. Mais plutôt comme une névrose personnelle. Et jamais il ne me serait venu à l'idée de, parce que j'étais copain avec un éditeur, de lui dire, mais est-ce que tu pourrais m'éditer? Enfin, c'est un rapport éthique à l'amitié, c'est pas possible. Sauf que lui, un jour, a l'idée de faire une revue. Il dit, mais je suis sûr que t'as des trucs et tout ça. Et je lui ai amené, donc, je sais pas, une espèce de sac où il y avait ça de texte. Il a commencé à lire et 3 jours plus tard, il m'appelle et il y avait les 10 premières pages ou les 15 premières pages de Rapport sur moi que j'avais commencé. Il me dit, mais ça, c'est un livre, ça. Alors là, c'est toujours un peu rigolo. Alia venait de sortir un livre qui est peut-être... Ils ont mis beaucoup de temps, Alia a mis beaucoup de temps, en tous les cas, à publier des auteurs contemporains. Et l'un des tout premiers, c'est un livre de Valérie Mregène qui s'appelle Mon grand-père et qui a bien marché. Et je voyais venir gros comme une maison Gérard pour me dire, mais en fait, on va refaire le coup de Valérie Mregène. Sauf que dans le livre de Valérie Mregène, qui est très bien par ailleurs, mais il manque quelque chose, il manque elle. Il manque elle dans la vision qu'elle a de son milieu familial notamment. Et moi, le projet de Rapport, c'était pas de raconter ma famille, c'était, j'avais 40 ans à ce moment-là, on est en 2002, j'ai 40 ans, je suis pas un petit jeune. Et j'avais vu un certain nombre de choses quand même, qui m'avaient un peu intrigué dans ma vie. J'avais vu, par exemple, que cette femme dont je suis tombé amoureux, et avec qui ça s'est mal fini, en fait, je l'ai rencontrée dans un train qui allait à Berlin en 89, au moment de la chute du mur de... Voilà. Et elle était rencoignée contre la vitre. Et ça a été l'amour le plus virulent que j'ai eu de ma vie. Et il faut rapprocher ça de... Quand j'étais petit, j'ai failli mourir... Parce que j'ai attrapé des staphylocoques dorés. On m'a mis dans une cloche, et à ce moment-là, on ne savait pas. Et heureusement, la pénicilline venait d'être commercialisée. Et la légende familiale veut que j'ai attrapé des staphylocoques dorés en léchant la bite d'un train qui nous emmenait chez ma grand-mère. Et donc, j'avais remarqué qu'il y avait comme ça des espèces de passerelles entre les événements que j'avais pu vivre, des événements amoureux par exemple, et des événements traumatiques que j'avais pu vivre dans l'enfance. Et c'était ça le vrai sujet, c'était relier ces passerelles-là. Et du coup, ça m'obligeait à parler de ma famille. Et voilà, et à partir du moment où j'écris, je suis dans un... On dit les choses ou on les dit pas. Enfin, voilà, pour moi, il y a quelque chose d'existentiel là-dedans. Et donc j'ai balancé donc que ma mère, enfin voilà, mon père, leur histoire qui était la mienne de mon point de vue, de ce que ça m'avait fait et ce que ça l'avait entraîné dans ma vie notamment amoureuse, mais pas que, sur les manquements et puis les pouvoirs aussi. Enfin, le mot staphylocoque doré pour moi c'était magique. C'était une maladie grave, mais c'était staphylocoque doré quoi. J'ai eu des staphylocoques dorés. Donc, il y a un rapport au mot oxy, etc. Donc, voilà. Donc, j'ai tout dit. Et bon, ça a moyennement plu. Ils ont voulu me faire un procès. Et voilà. Ils n'ont pas fait.
Après la publication de ce premier livre, une fois qu'il a été sorti, une fois que les lecteurs s'en sont emparés, quel est le premier sentiment que vous avez ressenti? Est-ce que c'était un soulagement de voir ces mots posés à distance? Est-ce que vous vous êtes senti perdu de voir votre histoire qui vous échappe? La première publication, c'est pas rien. Surtout quand vous racontez autant de scènes primordiales dans ce livre-là.
Ouais, mais j'ai 40 ans, quoi. Je sais pas comment dire, on pouvait pas me la faire. Enfin, moi, j'ai pas été bouleversé quand j'ai vu que le livre existait. Enfin, j'avais vraiment une vie, j'avais vécu plein de trucs, j'avais fait du son dans une compagnie de danse, j'avais fait vraiment beaucoup de choses. Donc, un livre, c'était pas du tout sacré. Et par ailleurs, je pensais que le livre était bon, voilà, qu'il apportait quelque chose, mais je sentais aussi qu'il était un peu trop maîtrisé. C'est-à-dire que, en fait, je l'ai écrit très rapidement, enfin, en 9 mois, il est venu avec une espèce de joie, et ça, j'ai découvert ça, la joie de l'écriture. Moi, je suis, alors, c'est quelque chose qui a pris de plus en plus d'ampleur, mais moi, je suis comme tout le monde, hein. Je vais au cabinet, je râle sur la malfaisance de l'époque, je paye mes factures d'électricité en disant waouh, putain. Voilà, je suis comme tout le monde. Sauf que quand je me lance dans un livre, je continue de payer mes factures d'électricité, mais ça n'a plus aucune espèce d'importance. D'un seul coup, ma vie sur Terre se trouve justifiée parce que je suis en train d'écrire. Je dois comprendre ce que Monet a peint en peignant les nymphéas. Je dois comprendre pourquoi Marcel Pichon s'est suicidé. Je dois élucider ce qui s'est passé lors de cette soirée à Sofical. J'ai d'un seul coup quelque chose à faire sur Terre, dans ma vie. Et là, ça prend. Et ça, c'est une joie incommensurable.
Vous en parlez presque avec les mêmes mots que de ces 6 mois d'euphorie et de schizophrénie dans la rue.
Oui, parce que je pense que le fondement de cette joie-là, de cette euphorie-là, je l'appuie dans cette expérience que j'ai vécue et qui ne peut pas être, que je n'ai pas traduite en mots, même si j'ai écrit des carnets, mais à la fin du cœur ne cède pas, voilà, c'est l'élucidation même de ce livre. Dire, ben, j'ai ouvert les carnets, en fait, c'est de la bouillie de mots, c'est mauvais, c'est pire que mauvais, c'est vraiment un truc de malade. Donc, voilà, mais il m'en est resté le sentiment de la transe, de la chaleur interne, de l'exaltation, de l'euphorie d'écrire, ça m'est resté totalement. Et je cours après ça.
Vous avez employé le mot vérité tout à l'heure. Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain de la réalité? Est-ce que ce mot veut dire quelque chose pour vous?
Oui, totalement. Ah oui, moi je suis un écrivain du réel. Même si il m'est arrivé, pour des raisons que la réalité m'a imposé, d'inventer des personnages de fiction, enfin un couple de détectives. Mais oui, moi ce qui m'intéresse c'est la réalité. C'est ma mère se jetant par la fenêtre parce que je lui dis qu'elle nous aime un peu trop. Là je me dis que la réalité, waouh, c'est quelque chose quand même. Là il se passe un truc que je comprends pas. Il y a un rapport de cause à effet qui est fantastique. Et donc, moi, j'ai beaucoup vécu avec le sentiment des phénomènes qui se produisent pour de vrai. Ça me passionne. Alors, j'ai dû essayer une ou deux fois d'écrire un roman, mais j'en suis absolument incapable. Et je crois que ça tient aussi aux modalités qu'impose le roman. À la fin du roman, il va falloir que je choisisse si l'histoire d'amour se termine bien ou elle se termine mal. Si le héros, il meurt ou il vit. Et ça va être un choix moral. Et moi, ce que j'aime avec la réalité, c'est qu'elle est amorale. C'est-à-dire que les méchants gagnent, on sait tout ça, parfois c'est les gentils, mais elle s'en fout de la morale. Donc moi j'aime beaucoup ça, Marcel Pichon, c'est pas moi qui fait qu'elle se soit laissée mourir de faim. Elle s'est laissée mourir de faim, et là il y a un mystère. Et je m'appuie là-dessus sur une réflexion de Gilbert Chesterton, donc grand écrivain anglais, très paradoxal et très chrétien aussi, très catholique même, pour un anglais pas mal, et qui explique que même le plus grand romancier n'aura jamais que l'imagination d'un homme, alors qu'il n'est rien comparativement à l'imagination de Dieu. Alors moi je suis intellectuellement, en tous les cas, absolument athée, mais je remplace l'imagination de Dieu par l'imagination de la réalité, et la réalité a une imagination incroyable. Et moi, c'est ça que j'essaye de restituer. Et quand je parle d'imagination, c'est aussi pour dire que la réalité est une espèce de fiction. Nous vivons des temps capitalistes, enfin, sur le capitalisme, et le capitalisme est une fiction. C'est une donnée langagière qui a créé des structures qui se sont réalisées dans la vie, mais c'est quand même une fiction. On vit dans la fiction, donc je me bagarre beaucoup avec... La réalité est plus grande que moi, elle a une imagination incroyable et qui exige d'être élucidée, parce que c'est ça où il y a le plus grand ressort d'émotion. Pour moi, c'est ce qui me procure le plus d'émotion, même si, par ailleurs, je suis un grand lecteur de vrais romans, je sais pas, Nabokov, par exemple, Stern, enfin voilà. Mais ouais, un écrivain du réel, ça me fascine, la réalité me fascine, quoi.
Et pour restituer cette réalité, est-ce que vous pensez à la structure de vos livres avant de les écrire, ou est-ce que la forme vient en écrivant?
La forme vient en écrivant. Alors moi, il faudrait distinguer, c'est ce que vous avez dit au tout début, c'est que j'ai d'abord 3 livres, Rapport, l'invité mystère, Cap Canaveral. Et puis après, il y a un gap, il y a une grande histoire que moi j'ai vécue. Donc, comme je dis, hein, j'ai jamais désiré être écrivain. La posture de l'écrivain pour moi est une posture sociale. Par contre, arriver à dire des choses, s'exprimer, faire exister la vérité. Et quand je dis la vérité, alors je suis pas complètement abruti. Je sais bien que la vérité n'existe pas. Oui, c'est sûr. Mais ça, c'est quelque chose que l'on peut dire une fois qu'on a beaucoup chercher la vérité. Si vous posez comme postulat de départ que la vérité n'existe pas, c'est juste la porte ouverte au mensonge. Et moi, j'ai un rapport... je me souviens très bien d'une rédaction que j'ai... Je devais avoir, 8 ans, 9 ans, enfin voilà. Il y avait un sujet, racontez vos vacances. Et moi, je raconte dans cette rédaction que je suis allé à Marrakech et je raconte une visite des souks de Marrakech, les étoffes, les rouges, les senteurs, l'encens, le paprika et tout ça. J'ai 10 sur 10. Mais mieux que ça, lecture à la classe entière. Lecture à l'autre classe.
Ah ouais.
Et là, gros problème pour moi, je ne suis jamais allé à Marrakech et je n'ai pas d'odorat. Et quand même, donc je dois avoir 10 ans, et moi on n'arrête pas de me dire c'est pas beau de mentir. Et là j'écris un truc qui est un fake total, et j'ai les félicitations du jury. Et là j'ai eu un sentiment d'imposture total. Et plus que ça, je me suis dit en fait c'est super facile de mentir. Donc ça veut dire que ce qui doit être difficile, c'est de dire la vérité. Donc je pense que je puise ici un sentiment le sentiment que la vérité, ça compte. Parce que le mensonge, finalement, ça vaut pas grand chose, quoi.
Mais c'est vous juste... la cherchez toujours, cette vérité, aujourd'hui ? Même si vous affirmez qu'elle n'existe pas ?
Bah dans mes livres, oui. La vérité de Monet quand il parlait d'Nymphéa, la vérité de Marcel Pichon, même si je sais que...
Ça reste le moteur de vos livres ?
Ah oui, trouver la vérité, dire la vérité, oui, aller au bout de ça, oui, absolument, totalement. Je ne suis pas un romancier dans ce sens-là, je ne suis pas un romancier, mais peut-être que je vais changer, peut-être que je vais m'améliorer et considérer que maintenant c'est bon, tu as fait le job, tu as payé ta dette, on va dire, et que maintenant tu peux peut-être t'autoriser à confronter ton imagination sans le support de la réalité.
Rapport, dossier, enquête, est-ce que pour vous ces mots-là, qui constituent vos titres, souvent ce sont des formats littéraires ?
Alors ça, c'est quelque chose que j'avais pensé dès le début. C'est-à-dire que, oui, que le rapport sur moi, tous mes titres, c'est moi qui les ai trouvés, ce ne sont pas mes éditeurs. Et en fait, c'était mon premier bouquin. Et je ne voulais pas qu'on me range dans romancier. 2002, c'est l'autofiction. C'est l'âge d'or de l'autofiction. Et je ne voulais pas écrire une autofiction. Donc j'ai écrit une autobiographie, un essai autobiographique, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que dans l'autofiction, qui est par ailleurs totalement synchrone de la télé-réalité, hein, je le dis en passant, l'autofiction, le sujet est le narrateur, est l'écrivain. Et moi, ça n'a jamais été... Donc il y a une sorte... Ça n'a jamais été moi, le sujet. Donc il y a une sorte de malentendu qui fait qu'on a beaucoup pensé que, mais par paresse hein, intellectuelle, que j'écrivais des autofictions. En fait, non, ce que je fais, c'est je ne parle pas de moi, je pars de moi. Je pars de moi pour aller vers les autres, vers la littérature, ce que je ne sais pas encore et que j'ignore et que j'espère découvrir. Mais donc, c'est à travers le prisme d'expérience vécue, mais c'est pas moi le sujet. J'embrasse le monde et je sais d'où je parle. Et pour moi, c'est très important de savoir d'où on parle, parce que c'est ça qui permet de faire le tri entre qui dit quoi exactement. Si Macron dit « je suis pour le bonheur », ça va pas être la même chose que si c'est moi qui le dis, par exemple. Donc, et pourtant, ce seront les mêmes mots. Donc, c'est un vieux truc.
Donc, ça impacte avec vos lecteurs, en fait. On sait d'où vous parlez.
Absolument. Et sur les lecteurs, j'ai un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. On pouvait remarquer que quand même, tu prends beaucoup en charge le lecteur, tu t'adresses à lui, etc. Et en fait, c'est parce que j'ai pas confiance dans le lecteur. Il n'y a aucune raison pour que je fasse confiance au lecteur. Je ne comprends pas les écrivains qui disent « Non, mais moi, je fais confiance au lecteur. » Je ne sais pas d'où il parle, pour le coup. Je ne sais pas à quel lecteur il s'adresse. Mais évidemment, d'abord, il dit ça comme si, de toute façon, le lecteur n'allait pas avoir sa propre lecture. C'est-à-dire, je ne comprends même pas la phrase. Je laisse le lecteur sa liberté. Ben, de toute façon, il l'aura. Donc, je ne comprends même pas la phrase. Moi, ce que je veux, c'est que le lecteur... Moi, mon problème, ce n'est pas d'être aimé, c'est d'être entendu. Voilà, confère ma mère. éventuellement. Qu'on entende ce que j'ai à dire. Et donc, pour ça, je veux pas qu'il y ait de méprise. Je veux que le lecteur aura toujours le dernier mot, de toute façon, mais au moins, j'essaye de contester un certain nombre de préventions qu'il pourrait avoir par rapport à ce que j'écris. J'ai un petit exemple comme ça. Les exergues de mes bouquins sont un terrain de jeu littéraire que j'adore. Enfin, voilà, tant qu'écrivain, tous les écrivains, et tous ceux qui lisent savent très bien que l'exergue ouvre le livre, il fait partie du livre. 9 fois sur 10, l'écrivain se la pète. Enfin, je veux dire, il sort Spinoza, des grands auteurs avec une phrase super. Et moi aussi, je fais ça. Et on a bien raison, hein, de se mettre sous la tutelle comme ça, de grandes pensées, de grands auteurs et tout ça. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Donc moi, je fais voisiner des exergues avec, je sais pas, Wittgenstein par exemple, et puis je sais pas, oui, la voiture jaune. Parce que c'est tout ça la culture. C'est l'élite et le populaire. Moi, c'est mon petit combat tout petit, mais voilà, pour faire exister, cohabiter les deux choses. Je ne suis pas que un grand écrivain. Quand je vais au cabinet, je suis pas un écrivain, quoi. Je chie comme tout le monde. Enfin, voilà, c'est tout. Donc, je fais ça. Et je me souviens, dans le dossier M, je fais une exergue. Alors, je me souviens plus de la phrase exergue, mais de Kafka. C'est fou, la vie d'un homme. Je crois que c'était quelque chose de ce genre-là. Voilà. Et bon, OK, c'est fou, la vie d'un homme. Kafka, s'il vous plaît, quand même. Et puis, le chapitre se termine. Arrive un autre chapitre. Exergue. C'est fou, la vie d'un homme. Kafka. Et là, je me dis, donc bon, on va dire qu'il y a un quart des lecteurs qui n'ont même pas remarqué qu'il y avait deux fois la même citation. Ok, libre à eux, pas de problème. Mais qu'on va dire qu'il y en a un certain nombre quand même qui sont, ah, ils sont gourés là, il a fait deux fois la même. Ça va pas ça. Et il est content le lecteur, il a repéré, enfin il prend le pouvoir sur le livre, il a repéré que d'un seul coup, ah, quand même, là je suis plus malin que toi quand même. Et puis bon, comme le livre est pas mal quand même, il continue sa lecture, et là arrive encore un autre chapitre. Ah, c'est la même citation de Kafka, c'est fou la vie d'un homme, Kafka. Et là, le lecteur qui avait remarqué dit, ah, c'est voulu. Tout ça pour dire que, et ça crée un sens particulier, c'est-à-dire, donc d'abord, c'est assez inédit hein, de refaire toujours la même, répéter la même exergue sur 3 chapitres différents, enfin voilà, ça crée quelque chose, ça perturbe la convention, et ça crée quelque chose d'éminemment littéraire, et en même temps, j'aurais pu laisser à 2, mais c'est là où je dis que je prends en charge la prévention que le lecteur aurait par rapport à ce que je dis. C'est que si j'étais resté à 2, je laissais le lecteur avec la possibilité d'avoir barre sur moi. Au moins à 3, il va falloir qu'il recule sa prévention. Un tout petit peu, pour dire, OK, c'est voulu, qu'est-ce que je vais pouvoir lui reprocher maintenant? Voilà. Donc ça oblige le lecteur à se positionner, et moi je fais très très attention à ça. Vraiment, et je l'intègre dans l'écriture parce que je me fais à moi-même des objections, qui sont des objections courantes, que j'intègre parce que ça fait partie du dialogue que j'entretiens, parce que, pour répondre à la question que vous posiez au tout début, en fait, je pars de, enfin, voilà, c'est la phrase de Coltrane, je pars d'un point et je vais jusqu'au bout. Je n'ai pas de plan, je n'ai pas de alors, si pour le rapport ou pour le dossier M, j'avais, en gros, je savais que j'avais 10 scènes. Mais le chemin, pour faire les 10 scènes, je ne les ai pas. Et ça, c'est l'écriture qui les invente. Je pars d'un point, et il faut que je trouve le bon point. Par exemple, pour le cœur ne cède pas, j'avais pas du tout commencé à écrire, ça faisait 1 an et demi que j'enquêtais, et je reçois le mail de la petite fille de Marcel Pichon qui me dit « Je vous interdis de parler de ma grand-mère. » Super. Magnifique début de livre. Parce que ça pose tous les enjeux de « Qu'est-ce que j'ai le droit de dire ?» Qu'a-t-on le droit de dire? Pourquoi? Est-ce que je vais transgresser? Oui, je vais transgresser. 900 pages, merci. Bon, à la fin, elle a aimé le livre. Voilà, comme quoi, il faut pas... Même si je sais qu'aujourd'hui, quand même, les services juridiques sont extrêmement présents dans la tenue des livres, hein, c'est vrai qu'il faut le savoir. Je ne vous lisais pas un livre aujourd'hui sans qu'il soit passé dans les mains de juristes. Ben voilà, si vous passez outre, et si le livre est bon, parce que c'est le livre à la fin qui va faire foi, eh ben, peut-être que vous allez retourner quelqu'un qui disait qu'il fallait surtout pas écrire, voilà, qu'on vous interdisait de lire ce livre. Et moi, je pars de ce point-là. Donc, une fois que j'ai le début, et après, c'est le cheval, quoi. Le cheval, il part. Et si le cheval, il va aller par là, il va aller par là, il va aller par là. Moi, je suis le cavalier. Et je comprends pas du tout. Le cheval, c'est le désir d'écrire. C'est lui qui, c'est l'inconscient, on va dire. C'est l'inconscient. Et c'est les mots. Un mot en entraîne un autre. Une idée en entraîne une autre. Une note. Enfin, moi, je m'appuie beaucoup comme métaphore sur le free jazz. Le free jazz, c'est des types disent, OK, on est en clé de, je sais pas, Fa, peu importe, on a un thème, M, Marcel Pichon, Nymphéa, Monet, OK, et 3, 4, on part.
Mais vous improvisez ?
Totalement. C'est le but, c'est ça la joie d'écrire. Je vis quelque chose, ça devient extrêmement existentiel. C'est-à-dire que l'écriture m'emmène dans un endroit et dans un autre. Et je dis, mais c'est dingue, là. J'étais à Giverny, je me retrouve à Auschwitz. Non, mais comment c'est possible? Eh ben, c'est possible, parce que c'est ça, l'écriture. C'est justement aller. Parce que improviser, c'est être incroyablement présent. Attention à ce que vous jouez, à ce que joue le copain. S'il y a un marteau-piqueur dans la route, dans la rue, ben, et que si vous l'entendez, d'un seul coup, ça va faire partie de la musique. Et moi, il y a des moments dans le deuxième, pareil, j'entendais un truc à la radio, mais d'un seul coup, ça rentrait dans le lit, ça faisait écho. Et donc, cette liberté-là, c'est juste la joie pure d'écrire. Ce n'est pas arriver à écrire un livre, c'est être dans l'écriture, et à la fin, ça va faire un livre, parce que j'ai, en tant que cavalier, j'ai conscience du livre. Je n'ai conscience que du livre. Mais c'est le cheval qui lui, vit sa vie, quoi. Et moi, j'ai fait gaffe à rester en selle.
Et le cheval vous permet, vous autorise à faire des livres qu'on pourrait qualifier d'hors format, quand on parle du dossier M, qui est à presque 1800 pages, qui ne sont pas tout à fait dans les standards de l'édition aujourd'hui, en tout cas quand on parle des prix littéraires, par exemple, ou ce genre de choses de l'édition aujourd'hui. Est-ce que vous vous autorisez ce hors format, justement, parce que vous êtes libre et que c'est votre cheval qui guide ?
Oui, parce que écrire, ça n'a rien à voir avec l'objet culturel. La littérature, en tous les cas, ça n'a rien à voir. La littérature, les arts sont des espaces de liberté, sont avant tout des espaces de liberté. Il y en a vraiment pas beaucoup dans la société. Il y en a très très peu. Il y en a pas, en fait. À part les arts, il y en a pas. Donc, c'est un espace où là, on peut déployer toutes les potentialités, toutes les joies, les peines, les cris, tout le bordel qu'on a en soi. On peut le mettre là. C'est un espace de liberté et il faut user de cette liberté, c'est indispensable. Et alors si le livre m'emmène à faire 1800 pages, mais alors le deuxième c'est un peu particulier parce que là j'ai brisé tous mes plafonds de verre, enfin il y a un narrateur mais à un moment donné il s'appelle Ben et il dit tu, enfin et puis ça peut être il y a des mots croisés, il y a un roman photo, enfin il y a tout, c'était un grand, j'ai ouvert toutes les portes et voilà, et pour moi c'est un toute arrogance bue, pour moi, c'est un grand livre sur la littérature. C'est un livre qui dit, regardez, il y a encore les pouvoirs de la littérature, ils sont assez immenses, en fait.
Mais est-ce que vous diriez que tous vos livres ont pour sujet la littérature ?
Oui, mais comme la musique parle de musique, comme voilà. C'est un des problèmes que... C'est un désaccord que moi je peux avoir avec la façon qu'on a de parler des livres. C'est-à-dire que, bien évidemment, j'ai écrit le dernier, c'est sur Monet et Nymphéa. Donc on dit le sujet du livre, c'est Monet et Nymphéa. Ok, super. Donc on va parler de Monet et Nymphéa. Et généralement, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Il y a plein d'auteurs, ils ont écrit un bouquin, sur Monet et Nymphéa, on va dire. Donc on les interroge sur Monet et Nymphéa, et ils sont super calés sur Monet et Nymphéa. Et quand on lit leur livre, c'est une bouse. On dit, mais c'est quoi le problème? Mais vous pouvez parler du livre, peut-être? Parce que si vous demandez à 10 auteurs d'écrire un livre sur Monet et les Nymphéas, vous allez avoir 10 livres différents. Donc c'est bien la preuve que c'est le livre qui fait le sujet, et non pas le sujet qui fait le livre. Et nous, la façon que l'on a de parler des livres, c'est de les prendre par leur sujet. Ah, ça parle de, je sais pas, la guerre, je sais pas, la transsexualité, etc. Ok, super. Donc on va parler de transsexualité. Comme si, l'écrivain était devenu expert en transsexualité. Alors que non, il est juste expert en littérature, a priori. Et les auteurs sont super complices de ça. Alors l'autre façon encore plus dérisoire de parler des livres, c'est de parler de l'auteur, quoi. C'est le pire. On va pas parler du livre, mais on va parler de vous. Vous êtes super sympa. Vous avez eu des problèmes dans votre enfance et tout ça. Alors que c'est encore une fois, c'est le livre qui fait l'auteur. Donc moi, j'ai bien évidemment le sujet, c'est toujours la littérature. C'est qu'est-ce que l'on peut déployer dans la littérature en écrivant. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Jusqu'où? Est-ce que c'est compris? Pas compris? Quel joueur on peut mettre? Quel jeu on peut jouer à l'intérieur de ça? C'est ça qui me passionne. C'est le seul plaisir qu'on peut y avoir. Qu'il peut y avoir.
Vous parlez de joie, vous parlez de jeu, mais la mort est omniprésente dans vos textes, celle de votre mère, entre rapports sur moi, le deuxième commence par un suicide, le cœur ne cède pas, décrit méticuleusement les derniers jours d'agonie de Marcel Pichon, et vous voyez des cadavres dans les Nymphéas. Est-ce que c'est une façon de l'apprivoiser, de la comprendre, de l'observer, cette mort?
Je sais pas, ça fait partie de la vie, enfin en tout cas moi ça fait partie de la mienne, entre les tentatives de suicide de ma mère, mon frère qui est mort du sida, j'ai une... Ouais, j'ai été habitué assez tôt et à la mort et c'est pas quelque chose. Enfin, moi j'aime beaucoup Clément Rosset, voilà le philosophe, voilà parce que ça fait partie des gens qui mettent des mots sur des choses que l'on pense profondément et après on pense comme eux sans garantie de savoir si c'était vraiment ce qu'on pensait au départ. Mais bon, peu importe. En tous les cas, il a pris les mots et il dit, enfin voilà, cette approbation de la vie. Qui ne s'oppose pas à la mort, qui ne s'oppose pas au drame, qui ne s'oppose pas aux catastrophes, mais qui, au contraire, surmonte tout ça. Voilà, moi, je suis très très méfiant sur la joie contre, je sais pas, les horreurs et tout ça. Mais par contre, je suis très sensible à la joie qui intègre. Bah oui, il y a des horreurs, oui, mais ça n'épuise pas la joie. La joie est plus forte que ça. Et tous mes livres, je pense que, mais c'était pas du tout conscient. Hein. Enfin, j'ai parlé de la mort parce que c'est un sujet, j'imagine, ouais, qui fait partie de mon imaginaire, dont je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que, en fait, écrire, c'est ça, c'est écrire ce dont on ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire de Meur qui te jette par la fenêtre. Je ne sais pas quoi faire de Marcel Pichon. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, je ne sais pas quoi faire de la mort. Je ne sais pas quoi faire des Nymphéas, de Monet. Et écrire, c'est vraiment résoudre cette impossibilité de savoir quoi faire de quelque chose en possibilité d'écrire sur cette chose-là.
Proust dit qu'écrire, ce sont des comprimés de vie. Vous êtes d'accord avec cette formule-là ?
Eh ben, je l'ai même noté là, regardez.
Non, c'est vrai, on n'a pas triché parce qu'on n'a pas regardé nos notes respectives.
Absolument. Ben, pour moi, la littérature, les arts en général, les arts qui s'honorent d'être des arts, hein, qui ne sont pas des biens culturels, ce sont des forces de vie contre les pulsions de mort du monde. Je crois profondément à ça. Je pense que la phrase de Proust, elle est vraiment vraie. Enfin, vraiment vraie. Okay. Mon pauvre Bouillet. En tous les cas, elle est très juste et elle me parle. Enfin voilà, ce sont des comprimés de vie. C'est magnifique comme vie. Alors bon.
J'évoquais en introduction une bascule, car dans Le cœur ne cède pas, vous l'avez évoqué, vous créez pour la première fois des personnages de fiction, un détective et son assistante, qui eux ont pour mission littéraire de servir la réalité. Est-ce que vous vous êtes amusé dans ce passage à la fiction au service du réel ?
Alors. Comme j'ai dit, moi, c'était le réel qui m'intéressait, et d'un seul coup, la petite fille de Marcel Pichon m'interdit d'écrire. Et là, se passe un truc très. Donc, je me renseigne. Qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire ? Est-ce que je peux dire Marcel Pichon ? J'ai contacté le service juridique de Flammarion, et oui, ouf. Quand on est mort, on peut utiliser le nom. Parce que imaginez bien que je ne peux plus écrire le livre si je dois l'appeler Gertrude machin. Ce n'est plus du tout Marcel Pichon. Ça devient ma propre création. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers Marcel Pichon, vers le mystère de Marcel Pichon. Et si elle ne s'appelle plus Marcel Pichon, ce n'est plus Marcel Pichon. Parce que Marcel Pichon, d'ailleurs, a évidemment une incidence sur sa vie, sur sa psyché. Pourquoi Marcel Pichon, ça veut dire petit. Enfin, voilà, il y a plein de choses que la réalité, dont la réalité se nourrit. Donc, au moins, j'avais le droit de faire ça. Mais cet interdit, du coup, il a fallu que je le contourne un peu parce que je n'ai pas pris à la légère le fait que la petite fille, même si j'ai refusé d'abdiquer devant elle, je n'ai pas pris à la légère son interdiction. Et du coup, j'ai inventé des personnages de fiction. Alors, ça avait deux raisons. La première raison, comme ça, évidente, c'est de dire, je vais me réfugier derrière la fiction. Sauf que, alors, tout le monde sait bien qu'en littérature, il y a un gros conflit entre imagination de l'auteur, vérité des faits. Là, vraiment, gros conflit, très épais. Vous pouvez disqualifier l'imagination de l'auteur parce qu'il a menti, quand même. Et c'est vrai, il a menti. Donc, ils vont dire, ouais, romancier, tout ça. Et moi, je comprends très bien cette dialectique-là qui fait qu'on ne peut pas tout mélanger, quand même. J'ai expliqué mon rapport à la vérité. Donc, voilà. Donc là, ce qui était génial, c'est que j'invente deux personnages de fiction, Bimor, Baltimore, détective, et Penny, son assistante. Et eux, pour être totalement inventés, tout ce qu'ils trouvent sur Marcel Pichon est rigoureusement vrai. Eux n'inventent rien. Eux sont inventés, mais ils n'inventent rien. Ce qui fait que d'un côté, la fiction, et moi je peux faire tout ce que je veux, liberté totale du romancier, à Penny et Bimor. Ils pourraient marcher sur la tête si je le voulais. Ce sont des êtres de papier, pas Marcel Pichon.
D'ailleurs, Penny parle avec un langage particulier. Vous lui avez inventé une forme grammaticale.
Alors, je termine juste, et je reviendrai là-dessus. Ce qui était, donc du coup, pour une fois, la fiction est au service de la vérité, mais au sens le plus strict. Et d'un autre côté, la vérité se déploie à l'intérieur d'un cadre fictionnel. J'avoue que j'étais pas mécontent
de la trouvaille.
De la trouvaille, enfin de réussir à concilier quand même ces deux trucs. Alors, Penny et Bimor ne sont que des voix, ils ne sont jamais décrits. C'est-à-dire, il n'y a pas Bimor, genre Penny, ok, je vais faire le café, évidemment, c'est une fille, et Bimor qui la regarderait, sa démarche chaloupée, allant jusqu'à la machine à café, ce genre de conneries qu'on trouve dans tous les livres. Et là, ce sont que des voix. Et bien évidemment, comme ce sont des dialogues, il fallait bien que j'arrive à discriminer qui parlait, même si très rapidement, mais Bimor dit, mais c'est vous qui parlez ou c'est moi. Et donc, si Bimor dit « je », Penny ne pouvait pas dire « je ». Et c'est là où j'ai trouvé l'artifice, un artifice purement littéraire, de dire, elle, quand elle s'exprime, au lieu de dire « je », elle dit « celle-ci ». Et c'est très intéressant de changer l'ordre des phrases, de dire « je suis très content d'être ici », celle-ci est très content d'être là. Et vous allez changer des sonorités, des structures syntaxiques, etc. Et donc ça m'a beaucoup amusé de changer. Voilà. Et du coup, on s'y retrouve, on sait qui parle, ils sont identifiés juste par leur façon de parler.
Alors, ce sont des êtres fictifs, mais parfois, certains de vos lecteurs leur écrivent parce qu'ils ont une adresse mail, ces détectives-là. Donc, on s'adresse à eux comme des personnages réels, sait qu'ils sont de la fiction.
C'est ça qui est fou dans la réalité. C'est-à-dire que, donc, effectivement, la Bimor et Investigation, qui est l'agence de détectives que j'ai créée, avec carte de visite, statut, voilà, adresse mail. Et moi, c'était un peu imprudent de ma part, je dois dire, d'avoir mis l'adresse dans le livre, mais c'est parce que j'imaginais quand même que des gens qui avaient éventuellement pu connaître Marcel Pichon ou connaître des choses sur l'histoire pourraient me contacter facilement au lieu de passer par l'éditeur et tout ça. Bon, il se trouve que pas du tout, personne ne... Voilà. En revanche, énormément de lecteurs m'ont écrit. Enfin, ont écrit à la Bimor Investigation et surtout à Penny. Enfin, elle a eu un succès fou. Moi, que dalle, Bimor, pas beaucoup. Vraiment. Penny à Donf. Et ce qui est rigolo, donc évidemment, alors point d'honneur, c'est si on met en place un jeu, on y joue jusqu'au bout, donc je réponds non. Ils répondent à tous les mails. Sachez-le, mais le dites pas trop, quoi. Enfin, ça prend beaucoup de temps quand même, je vous jure. Hein. Enfin, voilà. Bref. Mais bon, on le fait. Et donc, c'est comme on s'adresse beaucoup à Penny, Penny répond. Et très souvent, elle s'est amusée pendant un temps, bon, elle le fait beaucoup moins maintenant, mais elle faisait un petit PS en disant. Ne trouvez-vous pas étrange de correspondre avec un personnage de fiction? Voilà, c'est magnifique, quoi. Enfin, voilà, c'est une extension du domaine de la littérature.
D'où vient la volonté littéraire, Grégoire Bouillet, de tirer tous les fils du réel? Vous avez parlé, par exemple, de ce nom de Marcel Pichon. Vous allez remonter sur l'origine du prénom Marcel, sur l'origine du nom de famille Pichon, de son village de naissance, etc. Vous tirez vraiment tous les fils de cette réalité-là. Vous épuisez les possibles. On a parfois l'impression, en vous lisant, que vous cherchez à appréhender littéralement et dans tous les sens, comme disait Rimbaud, le réel. C'est ça votre projet d'écrivain, quand vous écrivez, par exemple, « Le cœur ne cède pas » ?
Je suis pas persuadé de. Alors, je vois bien le fantasme totalitaire dans mon entreprise, pas faux. Moi, je le vis pas comme ça. Je le vis. Si je devais faire une métaphore, je dirais que, en fait, chaque livre, à chaque fois, et notamment depuis le deuxième, parce que moi, j'écris pas entre deux livres, pas du tout. Mais à un moment donné, un livre s'impose, m'appelle, me dit, ok, là, Marcel Pichon, hop, on y va, et voilà. Et là, c'est 10-12 heures par jour, 7 jours sur 7. Enfin, ma vie devient le livre que j'écris, et le livre que j'écris devient mon quotidien. Et je le vis avec l'intensité, en tous les cas, d'une rencontre amoureuse. Donc, et quand vous tombez amoureux de quelqu'un, vous vivez l'histoire jusqu'au bout. Et si le livre fait 1800 pages, si l'histoire elle fait 1800 pages, elle fera 1800 pages. Si elle fait 900 pages, elle fera 900 pages. Là, c'est le dernier, c'est un petit amour. Mais c'est quand même un vrai amour. Il fait 450 pages. Et peut-être que la prochaine fois, ça fera 30 pages. Moi, j'ai écrit un livre, Cap Canaveral, on le dit pas assez, mais il fait 40 pages. Donc on dit, ouais, toujours des gros bouquins. Non, j'ai fait des petits aussi.
Comment vous savez quand un livre est fini ?
Quand j'élucide la raison pour laquelle je suis tombé amoureux. Ça, c'est très intéressant, mais c'est valable vraiment dans les histoires d'amour. C'est-à-dire que vous tombez amoureux, donc machin, machine, et tout ça, ok, c'est super. Et vous faites une idée de cette personne. Quelle la plus belle, la plus désirable, le plus beau, le plus désirable. Et puis, à un moment donné, la personne en face vient vous déchanter en vous disant « je ne suis pas exactement ce que tu as imaginé ». Le réel s'impose. Et à un moment donné, il va falloir comprendre pourquoi parmi les milliards d'individus, d'hommes, de femmes, il a fallu que je tombe sur cette personne-là. Et ça n'appartient pas à la personne, ça appartient à la personne qui est tombée amoureuse. Et pour le livre, c'est pareil. À un moment donné, il se trouve... que ce soit notamment pour le cœur ne cède pas, il se trouve que Il y a une raison pour laquelle je me suis passionné pour Marcel Pichon. Et à partir du moment où cette raison-là se dévoile à moi-même, à ce moment-là, le livre est fini. Parce que le ressort est cassé. Il n'y a plus de ressort. Je sais pourquoi je suis amoureux. À partir du moment où je sais pourquoi je suis amoureux, bah, c'est le plus grand intérêt. On est amoureux tant qu'on ne sait pas pourquoi. Et que l'autre vous offre ce mystère-là en permanence, qui excite le désir, etc. Et l'envie d'aller toujours plus loin. Sachant que la réalité continue. C'est-à-dire que l'enquête sur Marcel Pichon, elle aurait pu durer, mais je pourrais encore y être. C'est sans fin. La réalité est sans fin. Et le livre, lui, il s'arrête parce que le livre est un morceau de la réalité qui a sa propre logique. Et moi, la logique, le livre s'arrête non pas parce que je l'ai décidé, mais parce que l'histoire elle-même, d'un seul coup, a révélé son propre ressort. Et là, du coup, bah, ok, je termine, basta, on ferme les... Ciao.
Vous dites que vous n'écrivez pas entre deux livres. Alors, comment vient l'envie du suivant ?
Eh ben, j'aimerais le savoir. Comment on tombe amoureux ? On le décide pas, quoi. Là, je suis dans une période... voilà, de désœuvrement un peu embêtante, quoi.
Vous savez pas quoi écrire ?
Non. Au revoir. C'est moi qui suis dans la merde, hein, c'est pas vous. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est très compliqué. C'est des moments... Il y a une phrase comme ça, c'est Breton, raconte dans le Manifeste du surréalisme, il raconte qu'un jour, il est voilà un peu somnolent chez lui... Il entend une phrase. Il sait pas trop d'où elle vient, de la fenêtre ouverte, dans sa tête, de la pièce à côté. Et cette phrase dit quelque chose comme j'ai vu un mort par la fenêtre tomber, enfin par la fenêtre, alors comme ça. Cette phrase l'enthousiasme, le mobilise tout son être poétique, et c'est à partir de là qu'il a théorisé l'écriture automatique, à partir de phrases de son inconscient. Et il explique que cette phrase a cogné à sa vitre. Voilà, c'est qu'un truc cogne à ma vitre, mais je n'attends que ça. Et là, j'ai eu la chance, que Marcel Pichon a cogné à ma vitre, que les nymphéas de Monet ont cogné à ma vitre, et j'espère que... Mais c'est pas moi qui décide.
Est-ce que vous vous relisez, Grégoire Bouillet, et est-ce qu'en vous relisant, vous aimeriez changer certains passages de vos livres déjà édités ?
Si je me relis, non, sauf obligation. Et à chaque fois, je trouve que c'est pas mal, et je me dis, comment j'ai réussi à faire ça ? Parce que c'est des trucs que je sens que je ne pourrais pas revivre ou refaire pareil. Maintenant, j'ai la chance d'être en poche chez J'ai lu, et je pense qu'être l'un des très, très, voire le seul écrivain à faire des versions augmentées quand je passe en poche. C'est-à-dire que 1800 pages,
voilà,
ça suffit pas.
Vous avez augmenté le dossier.
900 pages, ça suffit pas. Mais ça fait partie du processus d'écriture. C'est-à-dire que moi, je suis très jaloux des musiciens. Vraiment, ils m'agacent parce que les mecs, ils écrivent une chanson, ils sont contents, ils l'enregistrent et tout ça. Et après, ils vont la jouer et ils vont la réinventer à chaque fois. Changer le rythme, rajouter des trucs, des arrangements, la faire lentement, etc. Et la chanson continue de vivre. Nous, les écrivains, on publie le livre, c'est fini. Et c'est hyper brutal. Et moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai demandé à ce que... Donc moi je fais des lectures, je fais pas mal d'interventions et voilà et notamment dans les lectures, donc je choisis des passages et ça m'oblige à retravailler certaines choses. Et puis il y a des choses qui me viennent en discutant, lors des rencontres, je dis ah mais oui il y a ça aussi tout ça. Et donc à la fin je me retrouve avec un corpus d'ajouts que je mets dans la version poche. Donc les gens de Flammarion ils sont frustrés qu'on lit en voilà, mais c'est aussi une façon de payer ma dette au livre de poche parce que moi j'avais pas d'argent quand j'étais gamin et jeune et étudiant et, enfin pas étudiant mais enfin jeune et en fait j'ai découvert la littérature en lisant les livres de poche donc ça me plaît bien que finalement mes directeurs cut ils sont en livre de poche et pas dans la version Cher et Flammarion mais pardon Flammarion.
Savez-vous pour qui...
Je vous aime beaucoup et merci de me soutenir.
Savez-vous pour qui vous écrivez ?
Pour qui veut ? Alors là, je ne force personne. Non, je sais pas. Mais non, j'ai pas un dédicataire particulier.
Est-ce que vous avez des yeux de confiance à l'extérieur qui vous lisent pendant que vous êtes en train d'écrire, justement, avant ceux de votre éditeur ?
Pas du tout. Et d'ailleurs, je ne fais jamais lire. Je suis tout seul dans mon coin, c'est un truc de taré, mais que j'adore. C'est-à-dire que même mon éditrice, Alix Penant, pour ne pas la citer, ne sait pas. Personne ne sait, personne ne lit. Je trouve que c'est la responsabilité de l'auteur, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est lui qui... C'est lui qui écrit, c'est lui qui a l'idée, qui passe son temps, qui se bat, qui s'amuse, qui jouit au-dessus de la ceinture, qui va au bout de son truc. Et après, une fois que c'est terminé, je ne peux pas aller plus loin. J'ai fait du mieux que je pouvais. Là, maintenant, peux le donner à lire. Et après, c'est un peu à prendre ou à laisser, quoi. Je ne comprends pas un auteur qui demanderait à son éditeur, là, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je devrais faire ci? Je suis un peu... Je sais que ça existe, mais je sais pas. C'est ma responsabilité d'aller au bout et puis de. Et si je me casse la figure, c'est moi qui me casse la figure, quoi. Voilà. Et par ailleurs, heureusement qu'il y a des éditeurs, mais je pense que l'écrivain doit être supérieur à son éditeur. Je pense que intellectuellement, littérairement, l'écrivain doit être supérieur à son éditeur. Voilà. Donc c'est lui qui doit maîtriser l'éditeur. C'est pas l'éditeur qui doit maîtriser l'écrivain.
Nous arrivons à la fin de cette masterclass. J'ai une toute dernière question. Il faudra répondre très vite, Grégoire Bouillet.
Non, mais j'ai d'abord un truc, parce que vous n'avez pas parlé de l'humour.
C'est vrai.
Ouais.
On fait une dernière question sur l'humour,
on
alors
fait une dernière
on finit comme
sur
ça.
L'humour, ouais.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de mort, de faits divers, de plein de choses comme ça. Mais il faut le dire, et je crois que tout le monde l'a entendu en vous écoutant pendant cette masterclass, vos livres regorgent d'humour.
Merci de le dire. C'est très sympa. Non, j'avais peur qu'il y ait une ambiance un peu morbide à la fin. Pour moi, l'humour, d'abord, c'est pas genre la politesse du désespoir et tout ça. C'est plutôt une espèce de vitalité. Et ça me fait penser à une histoire très rigolote qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. Donc, j'étais dans une librairie, on fait une rencontre et tout ça. Et puis, à la fin, il y a des questions, de lecteurs. Il y a une petite dame, au fond, qui me dit, excusez-moi, bon, votre livre est très bien, mais j'ai pas beaucoup aimé votre humour. À un moment donné, vous écrivez, là, après les nymphéas, qui l'eût cru, l'eût-tu cru? Alors ça, non. Ça passe pas. J'ai dit, très bien, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Et dans le livre, il y a une devinette. Et là encore, c'est un truc de process d'écriture. Il y a une devinette parce que dans un paragraphe, il y a un mot qui me vient et ce mot est tellement connoté que si je le mets, le lecteur va immédiatement... il va me ranger quelque part et je veux pas me ranger. Donc je fais une devinette à la place pour remplacer le mot. Donc c'est un mot en 11 lettres. Détruit le vivant et crée des monstres. Je vous laisse méditer là-dessus. Et du coup, je parle à cette petite dame et je lui dis, mais vous avez vu qu'il y a une devinette. Devinette en 11 lettres. Détruit le vivant et crée des monstres. Vous diriez quoi? Et elle réfléchit vraiment 5 secondes. Littérature. Et ça fait 11 lettres. J'ai dit, écoutez, madame, si pour vous la littérature, c'est ce qui détruit les vivants et crée des mondes, je comprends que vous n'aimiez pas mon humour.
C'est un magnifique mot de la fin qui lui crut, l'eût-tu cru. Nous voici arrivés donc à la fin de cette masterclass. Merci beaucoup, Grégoire Bouillet, pour votre générosité.
Merci beaucoup, Marie. Merci.
C'était la masterclass de Grégoire Bouillet avec Marie Sorbier, enregistrée à la bibliothèque François Mitterrand. Coordination, Henri Leblanc. Coordination technique, Francesca Fossati. Prise de son, Stéphane Foulon et Romain Luquins. Réalisation, Perret Legras.